Vous êtes à l'écoute d'une émission chrétienne intitulée « Chemin de vérité ». Vous êtes invité à suivre chaque semaine avec nous des études bibliques de divers sujets d'importance spirituelle. Le sujet de ce jour est l'Église, 8e partie, son culte. Nous avons parlé de la nature et de l'origine de l'Église, ainsi que des noms qu'elle porte dans la Bible. Nous avons vu de quelle manière on devient membre de l'Église que Jésus a bâtie. Parlons maintenant de ce que l'Église fait, ce peuple qui est appelé hors du monde et qui appartient spécialement à Dieu. L'apôtre Pierre dit dans sa première épître, chapitre 2, versets 9 et 10, que l'Église glorifie Dieu. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Il est vrai que chaque chrétien doit, en tant qu'individu, glorifier Dieu dans son cœur, et aussi par sa bonne conduite quotidienne. Mais il est clair aussi, d'après ce que nous lisons dans le Nouveau Testament, que les chrétiens dans une localité doivent s'assembler régulièrement. Hébreux 10, verset 25 dit « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. » Une raison pour s'assembler, c'est pour offrir ensemble à Dieu des prières et louanges. Cette association des croyants pour l'adoration se voit depuis les premiers jours de l'Église, à partir du jour de la Pentecôte en acte 2. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Acte 2, versets 42, 46 et 47. Il est évident dans ces versets que les premiers chrétiens s'assemblaient pour apprendre davantage la parole de Dieu, pour commémorer la mort du Christ en prenant le repas du Seigneur, appelé la fraction du pain, et pour louer Dieu ensemble. La première épître de Paul aux Corinthiens contient plusieurs références au fait que l'Église s'assemblait pour un culte. Au chapitre 10, verset 17, Paul se réfère au repas du Seigneur quand il dit « Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. » Au chapitre suivant, Paul est contraint d'adresser un reproche sévère à cette église de Corinthe, car la division parmi ses membres se manifestait, même lors des assemblées de dimanche. Il dit « J'apprends que, lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. » 1 Corinthiens 11, versets 17 et 18. L'Église devait effectivement se réunir en assemblée, mais elle devait être unie. Au chapitre 14, nous avons un autre aperçu des réunions de l'Église au cours desquelles les chrétiens assemblés adressaient des louanges à Dieu et encourageaient les uns les autres. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. 1 Corinthiens 14, verset 26. Hébreux 2, verset 12 est un autre passage où nous voyons que l'on adorait Dieu dans les réunions de l'Église. J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Il y a des croyants individuels qui pensent, à tort, qu'ils peuvent accepter Jésus sans s'intéresser à son Église. Ils essayent de vivre leur vie chrétienne de façon personnelle, lisant leur Bible et faisant des prières chez eux à la maison, mais sans se joindre à d'autres chrétiens pour des activités communes, même pas pour adorer Dieu ensemble avec eux. Comme nous venons de le voir, Ce n'est pas ainsi que les apôtres ont appris aux premiers disciples à mener la vie chrétienne. Ils comparaient l'Église à un corps. Or, comme Paul dit en 1 Corinthiens 12, verset 21, « L'œil ne peut pas dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds, « Je n'ai pas besoin de vous ». Chaque membre a besoin de rester attaché au corps, et chaque chrétien a besoin de rester attaché à l'Église. Bien que certains croyants ne reconnaissent pas la nécessité des assemblées hebdomadaires, les différentes églises sont unanimes là-dessus. Elles ont toutes des réunions chaque semaine pendant lesquelles les membres offrent collectivement une adoration à Dieu. Mais quelle doit être la nature de cette adoration? Sur cette question, les dénominations sont loin d'être d'accord les unes avec les autres. Il est possible que cette confusion vienne du fait que l'on oublie un principe fondamental qui devrait déterminer la nature de toute adoration. C'est qu'on devrait faire ce qui plaît à celui qu'on adore, et non pas ce qui plaît aux adorateurs. Hébreux 12, verset 28 nous exhorte de montrer notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Trop souvent, les croyants se font connaisseurs des cultes, appréciant ou dénigrant telle ou telle église parce que son culte serait trop simple ou trop cérémoniel. Il ferait dormir ou il serait trop émotionnel. Il serait trop long ou la musique ne serait pas bonne. Et les églises tombent parfois dans l'erreur des entreprises qui cherchent à satisfaire à la clientèle, à faire la concurrence les unes avec les autres et avec les distractions de la vie moderne, en offrant un produit qui plaise aux consommateurs qui cherchent un culte selon leur goût. Et avec tout cela, on oublie que le culte n'est pas censé être selon le goût des hommes. Il devait être selon le goût de l'Éternel. Mais Dieu n'acceptera-t-il pas tout ce qu'on lui offre comme adoration? N'est-il pas content du moment où l'on prend le temps de le louer? Si nous pensons de cette manière-là, nous n'avons pas encore saisi la grandeur et la majesté de Dieu, ses droits en tant que créateur de l'univers et sa dignité en tant que souverain de tout ce qui vit. Certains juifs du temps du prophète Malachie avaient l'idée que Dieu devait accepter tout ce qu'on voulait lui offrir, et ils apportaient comme sacrifice des animaux chétifs. Dieu leur dit « Un fils honore son père et un serviteur son maître ». Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Où est la crainte qu'on a de moi? Vous méprisez mon nom quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? « Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées. » Malachie 1, versets 6, 8 et 10. Les paroles de Jésus nous montrent aussi que Dieu ne veut pas de n'importe quelle adoration. Il dit aux pharisiens, « Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Matthieu 15, versets 8 et 9. Et il dit à la femme samaritaine, « L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Jean 4, verset 23. Il y a donc des adorateurs qui perdent leur temps parce qu'ils suivent des commandements d'hommes plutôt que ceux de Dieu. Il y a des adorateurs que le Père demande, et il est sous-entendu qu'il y en a qu'il ne demande pas. Ne vous contentez donc pas du fait que vous adorez Dieu. Ne dites pas en vous-même que l'essentiel, c'est d'aller à l'église quelque part. Ne pensez pas que toutes les églises se valent, et il est donc raisonnable d'en trouver une où vous vous plaisez, où l'adoration est selon votre goût. Vous risquez de perdre votre temps, d'offrir un culte vain ou inutile, parce qu'il ne plaît pas à celui que vous adorez. Une sorte d'adoration que la parole de Dieu ne recommande pas est la vaine répétition. Jésus dit en Matthieu 6, verset 7, « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Dans plusieurs religions, on trouve ce phénomène. L'adorateur répète des dizaines de fois les mêmes paroles qu'il a apprises par cœur. Quand bien même ces paroles puissent être belles ou vraies, ou bien choisies, il est très difficile à l'esprit humain de répéter sans cesse les mêmes phrases sans que la pensée s'éloigne des paroles que la bouche prononce. Ces belles paroles deviennent par là de vaines paroles, vidées de leur sens. La prière se transforme en simple rite, accompli machinalement, ayant une valeur par le fait même qu'on l'a prononcé le nombre de fois prescrit. Tellement on attache une importance au nombre de fois que l'on dit les paroles, on se sert d'un collier de grains enfilés que l'on fait glisser entre les doigts en récitant les prières. Jésus dit que cette multiplication de paroles n'est pas ce que Dieu recherche. Un autre phénomène que l'on rencontre très souvent dans les assemblées de nos jours, mais qui est manifestement contraire à l'enseignement de la Bible, est le fait d'adorer Dieu dans le désordre et la confusion. Surtout au moment de la prière, on assiste à des scènes où tout le monde se met à parler à haute voix en même temps. Certains crient même et frappent du poing dans l'air. D'autres crient pour ne pas entendre le voisin qui parle fort et dont les paroles les embrouillent. Certains estiment que si la sueur n'a pas coulé, la prière était sans ferveur. Pourtant, 1 Corinthiens 14 enseigne clairement que ce n'était pas une pratique approuvée au temps des apôtres de tous parler en même temps dans une réunion de l'Église. Écoutez les exemples suivants et surtout la conclusion. En est-il qui parle en langue? Que deux ou trois ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. 1 Corinthiens 14, versets 27 à 33. On voit au verset 16 et 17 de ce chapitre que, lorsqu'on faisait la prière dans l'assemblée, une personne devait parler à haute voix au nom de toute l'assemblée. L'assemblée, à son tour, exprimait son assentiment en disant « Amen », ce qui signifie « Ainsi soit-il ». De cette façon, chacun est édifié par les paroles de la prière, et chacun fait sienne cette prière qui exprime les louanges et les souhaits de l'Église dans son ensemble. En plus, cette façon de faire reflète mieux la nature de notre Dieu, qui n'est pas un Dieu de désordre, et dont la parole nous recommande que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. 1 Corinthiens 14, verset 40. Une des activités les plus importantes de l'Église, c'est l'adoration qu'elle offre collectivement à Dieu. On ne mène pas sa vie chrétienne chacun dans son coin. Notre vie spirituelle en tant que chrétien est une affaire personnelle et individuelle, mais elle est aussi une affaire de groupe, une affaire de famille spirituelle. Ça se partage, ça se vit ensemble. Et nous devons nous assembler régulièrement pour adorer Dieu en tant qu'Église. Mais gardons-nous de penser que Dieu accepte n'importe quel culte que l'on veut lui offrir. Son adoration doit se faire en conformité à ses commandements, et non pas aux commandements des hommes. C'est ainsi qu'elle reflétera non seulement sa grandeur et son autorité, mais aussi sa nature comme un Dieu de paix qui aime la bienséance et l'ordre. L'adoration dans l'Église est un sujet qui est généralement mal compris. C'est pourquoi dans notre étude sur l'Église, nous voulons la semaine prochaine continuer de traiter cet aspect de son activité.
Saluez le Seigneur.